Mare Nostrum sur Radio Zinzinex.
Des mondes antiques aux migrants d'aujourd'hui.
L'actualité, la culture, les sciences sociales.
Dans l'ère méditerranéenne.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes donc sur Radio Zinzinex et vous écoutez l'émission Mare Nostrum. Cette émission préparée et présentée par Raymond avec Fabrice à la technique. Avec ce 20e numéro de notre émission, ben, nous reprenons nos diffusions du jeudi et du samedi. Et donc aujourd'hui, nous allons évoquer le site mémorial du camp des Mille, Mémoire et Éducation, qui est situé donc à proximité d'Aix-en-Provence. Un lieu très particulier, à bien des égards, d'abord de par son existence, et le travail de remise en état, et aussi de par ses objectifs uniques au monde qui ont été fixés par la fondation qui a mis en place ce site. Pour en parler, donc, nous recevons Alain Chouraki. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alain Chouraki, vous êtes donc sociologue et juriste, directeur de recherche émérite au CNRS. Vous avez travaillé sur les rapports sociaux, en particulier les rapports dans le monde du travail. Mais vous êtes ici surtout pour, comme président fondateur du site mémorial du camp des Mille et responsable de la chaire UNESCO, cette chaire UNESCO qui rassemble, qui implique de nombreux universitaires, donc de 14 pays, qui viennent en particulier d'Afrique du Nord et d'Afrique en général. Cette chaire UNESCO s'appelle « Éducation à la citoyenneté, sciences de l'homme et convergence des mémoires ». Et c'est dans la suite de cette chaîne, de cette chaire de l'UNESCO, que vous avez dirigé, il y a 3 ans, un ouvrage collectif très intéressant qui s'appelle « Pour résister », avec en sous-titre la continuation de se résister à l'engrenage des extrémismes, des racismes et de l'antisémitisme. Ce livre est d'ailleurs toujours disponible, donc il est sorti en 2015, je crois.
2015, oui, 2015. Tout à fait.
Il est toujours disponible dans les bonnes librairies, et puis, bien sûr...
De moins en moins dans les bonnes librairies, parce qu'apparemment il est épuisé, mais vous pouvez le trouver ou le commander au camp des Mille.
Eh bien voilà, donc vous pouvez encore le trouver au camp des Mille. N'hésitez pas, c'est un ouvrage important. Donc on va évoquer ce site mémorial, et on va peut-être... commencer, Alain Chouraki, avec le contexte historique, l'histoire rapide du camp, sachant que c'est le seul élément de ces camps qui soit resté à peu près entier, qui soit parvenu jusqu'à nous à peu près entier.
Oui, tout à fait. C'est... D'abord, merci de m'inviter dans cette émission dont je connais l'intérêt. Et je dois saluer aussi le sérieux avec lequel la préparation de cette émission a été faite. Et j'en suis très heureux. Ça a été un des éléments de conviction pour moi pour pouvoir venir ici. Oui, effectivement, aujourd'hui, le camp des Mille est le seul grand camp européen. On a eu du mal à pouvoir l'affirmer, mais on peut l'affirmer maintenant. Enfin, on n'avait pas toutes les informations. Le seul grand camp européen encore intact. Seul grand camp d'internement et de déportation, pas évidemment camp d'extermination. C'est d'ailleurs un des intérêts du site que d'être au début de la chaîne horrible. C'est un intérêt pédagogique. On voit bien que c'est autour de nous, de façon très très simple, je dirais, dans des lieux ordinaires et qu'on connaît bien avec leurs cigales et leurs boulistes, que peut s'enclencher l'extraordinaire d'Auschwitz. Oui, donc effectivement, ce site mémorial a une importance particulière aujourd'hui. Et son histoire peut se résumer assez facilement. C'est l'histoire d'un engrenage historique, à mon avis déjà en lui-même très éclairant pour aujourd'hui. Ça commence par la République. La République qui, en 1939, parce qu'il y a la guerre, interne, de façon qu'elle pense préventive, les ressortissants de la puissance ennemie qu'est le Reich, donc des étrangers allemands, autrichiens, certains tchèques, qui se trouvent sur le territoire national, bien que la plupart d'entre eux soient étaient sur le territoire national parce que ils fuyaient le nazisme et que donc ils étaient venus se réfugier sous l'aile protectrice de la République française et de sa démocratie, eh bien, ils étaient quand même allemands, d'origine au moins, certains étaient apatrides, enfin bref, allemands, autrichiens, on les enferme, je ne veux pas le savoir, c'est la guerre, c'est le risque de guerre. On peut penser ce que l'on veut, mais on comprend bien comment, dans un contexte de guerre, on se dit, bon, il y a un risque d'espionnage, d'avoir une espèce de cinquième colonne à l'intérieur, etc. Très bien, j'enferme tout le monde. Bon, et je fais 90% d'innocents, entre guillemets, victimes de cet internement. Allez, c'est ainsi, et c'est l'armée qui garde ce camp, très, très logiquement, je dirais, puisque c'est dans ce contexte de guerre. Bon.
Oui, dès l'origine, il y a une espèce de contradiction, quoi. Entre des gens qui sont venus se réfugier et qu'on va enfermer parce que on craint qu'ils ne soient la cinquième colonne, en gros.
Absolument, absolument. Et on voit comment une situation, en l'occurrence de crise, on voit bien comment, on sait pas ce qu'on aurait fait à la place des dirigeants. Bon. Est-ce qu'on aurait accepté le risque de laisser dehors des gens, nombreux, très nombreux, qui relèvent d'une puissance, enfin, qui sont de nationalité ennemie, si je puis dire. Bon, donc, on se retrouve dans cet engrenage qui, encore une fois, fait que énormément d'innocents déjà se retrouvent dans cette situation. Il y a d'ailleurs eu des drames au camp des Mille. Un écrivain célèbre à l'époque qui s'appelle Walter Hasenclever qui se suicide parce qu'il ne supporte pas la contradiction que vous venez de pointer. Tous complètement abattus. Certains avaient déjà fait candidature pour entrer dans l'armée française, la Légion étrangère, etc. Les autres allaient le faire ensuite, tellement pour eux, il fallait se battre avec les Français contre les nazis, pas les Allemands. Ils étaient Allemands d'origine allemande, parfois fiers de leur culture allemande. Mais bon, ils étaient vraiment, j'allais dire, de notre côté. Eh ben, tout de même, crac. L'engrenage de la guerre, de la crise, etc., fait que la République se comporte de cette manière. Bien.
Et alors, dès ce moment-là, le camp des Mille est le premier maillon de toute une chaîne sur laquelle j'ai été assez étonné, d'ailleurs, parce qu'il y a quasiment des mini-camps un petit peu partout.
Il y a 242 camps en France, 242. Il y en avait une cinquantaine autour des Mille. Alors pas dès l'ouverture bien sûr, mais dans les deux années, puisque l'histoire du camp des Mille en fait se concentre sur deux années, hein, depuis la déclaration de guerre septembre 39 jusqu'à la fin, il y a eu plusieurs fermetures, mais bref, c'est la fin 42 en définitive, au moment où les Allemands occupent la zone sud, la zone dite libre. Pendant ces deux années, il y a eu effectivement un essaimage de camps partout, beaucoup en zone dite libre, et au total, sur toute la France, effectivement, 242 camps. J'ai oublié de mentionner au début que c'était une tuilerie auparavant, hein, et c'est redevenu une tuilerie, on en parlera peut-être après la guerre. C'était une tuilerie, puis il se trouvait désaffecté pour des raisons économiques. Bon, elle avait des avantages, pas trop près des villes, pour pas trop que ça se voit. Des grands bâtiments bien solides. Pas du tout fait pour accueillir des hommes, des femmes et des enfants ensuite, bien sûr, mais bon, près de chemin de fer, hein, puisqu'il fallait trimballer l'argile, les tuiles, etc., donc pourquoi pas les hommes, etc. Bien. Donc, on a cette première étape qui, quelque part, comment dirais-je, par son côté à la fois un peu logique, je dirais, dans son absurdité. Alors, c'est logique, c'est absurde, c'est excessif, mais c'est la guerre. Bon, cette première étape nous aide à comprendre. C'est au début la République. C'est la République qui a été capable, face à une crise, de faire cela. Et on voit bien aujourd'hui les tentations pour notre République, pour toutes les démocraties, de bousculer un peu les principes de présomption d'innocence, de liberté d'aller et de venir, pour au fond se sécuriser. Et on voit bien qu'aujourd'hui aussi on hésite en se disant mais oui, mais quand même ça va atteindre la liberté, puis la liberté d'individu, leur bonheur, leur bien-être, leur famille, etc. Mais d'un autre côté, on peut pas prendre le risque qu'on se fasse dire un jour mais vous l'aviez repéré, il a pas été, etc., etc. Bon, bref, on voit bien la mécanique. Intéressant, me semble-t-il, comme première leçon. Puis ensuite, très logiquement, quand la République, après s'être donné ou avoir tenté de se donner les moyens, dont les camps, d'avoir tenté de se donner les moyens de résister et de réussir, quand elle réussit plus, quand la démocratie, malgré les mesures sécuritaires, ne réussit plus, ben qu'est-ce qui, et là ça a été Vichy, à ce moment-là, le régime qui se met en place à l'époque, Vichy en l'occurrence, n'a plus qu'à se baisser pour ramasser des internés qui sont, alors là, ils se trompent pas, qui sont des vrais ennemis du fascisme, de l'autoritarisme et du nazisme, n'a qu'à se baisser, pour ramasser des camps qui sont déjà là, des textes qui sont déjà là, des mécanismes policiers qui sont déjà là, et un état d'esprit xénophobe qui évidemment a été stimulé par la guerre et a été aussi stimulé très très normalement par le pouvoir, y compris républicain et démocratique. Quand on se bat contre les autres, évidemment qu'on va pas se priver de chauffer un peu ses troupes. Et après, ceux qui vont chauffer de plus en plus, encore une fois, n'ont qu'à se baisser pour ramasser cet état d'esprit, ces textes et ces camps. Bien. Donc en 40, c'est Vichy. Changement de régime du camp, ce sont des policiers qui prennent le relais des militaires, avec d'ailleurs des commandants successifs intéressants dans leur diversité, depuis celui qui fait le minimum et qui parfois même aide certains internés à s'échapper, y compris au pire moment, jusqu'à celui qui était d'ailleurs condamné à la libération, horrible, qui fait frapper, qui se comporte de façon totalement inhumaine et au-delà, bien sûr, du strict nécessaire ou utile, si tant est qu'il y ait du nécessaire ou de l'utile dans ce domaine. Bon, bien au-delà. Alors, donc, 40-42, Vichy interne ces mêmes personnes et d'autres, dits indésirables, anciens des brigades internationales, députés, encore plus, je dirais, de députés allemands qui avaient commencé à être là dans la première période, députés du Reich, en général chrétien-démocrate ou sociodémocrate qui fuyait Hitler, des hommes politiques italiens, Luigi Longo, qui a été ensuite chef du Parti communiste italien, qui s'y est retrouvé. Bref, toute une diversité de au fond d'ennemis du fascisme qui se retrouvent internés à cet endroit pour des raisons idéologiques. Donc on a eu une sorte de première étape contre des étrangers supposés ennemis, puis une deuxième étape, c'est celle-ci qui est évidemment toujours à dimension xénophobe, mais avec en plus cette dimension idéologique et politique. Et puis on en arrive très logiquement dans cet engrenage terrible à août-septembre 42, c'est-à-dire les rafles de juifs, certains étant déjà parmi les précédents, donc sur place, d'autres, en particulier femmes et enfants, étant raflés dans toute la région et d'ailleurs dans toute la zone sud, dans la foulée, si je puis dire, de la rafle du Veldiv à Paris. Mais la rafle du Veldiv, c'était sous occupation allemande. Les rafles dans la zone sud et le camp des Mille en général, c'était avant l'occupation allemande de la zone sud, ce qui apporte là aussi des éléments de réflexion.
Oui, et puis c'était sous l'autorité, sous les ordres de l'État.
De l'État français, d'où d'ailleurs la cérémonie du 22 juillet dernier, dite Veldiv, parce qu'on a choisi cette date, mais en fait c'est l'ensemble. L'ensemble des rafles et des persécutions racistes et antisémites, ça concerne aussi les Tziganes, bien sûr, qui sont commémorés à ce moment-là, ainsi que, heureusement, on a joint à cette cérémonie les Justes de France qui ont montré qu'on pouvait faire quelque chose contre tout ça et de façon évidemment très, très efficace. On y reviendra peut-être parce que nous sommes extrêmement attachés à mettre toujours en avant la possibilité de résister, de réagir.
Alors, je vais vous proposer une petite virgule musicale. En écoutant, alors juste un petit morceau, l'hymne du camp des Mille. Voilà, c'est le seul petit extrait que j'ai pu trouver. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres.
Il n'y en a pas d'autres. Un hymne qui a été créé, bien sûr, à l'époque par les internés.
Exactement, c'est ça.
Et on ne comprend pas nécessairement bien les paroles, mais c'est un hymne à la France. Bien sûr. Des gens qui sont internés par la France de l'époque et qui continuent à y croire et à dire on répondra présent à la France,
alors
qu'ils sont enfermés par la France.
Ah oui, c'est une écriture assez... Alors, en plus, à cet attachement, s'ajoute pour eux-mêmes, en quelque sorte, une sorte de dérision par rapport à ce qu'on leur demande de faire. Enfin, on l'a un petit peu entendu, là, quand la guerre est dure pour... la guerre est dure, mais pas pour nous. Tous les soirs, nous avons un rendez-vous, nous épluchons les pommes de terre, nous nettoyons nos plats et verres.
Oui.
Et une sorte de dérision sur leur situation.
Ça a été tout
extrêmement
le long.
Difficile.
Ça a été tout le long.
C'est
une des grandes leçons pour moi, en tout cas, de cette histoire, au niveau individuel, bien sûr, au niveau personnel, je veux dire de chaque personne, c'est de voir combien l'ironie, et peut-être est-ce l'origine de l'humour juif aussi, hein, face aux persécutions. L'ironie, c'est vraiment la politesse du désespoir. Vous savez que la phrase n'est pas de moi, bien sûr. Mais on le sent, on le voit dans les dessins, on en parlera peut-être tout à l'heure, dans les peintures, etc. Et vous le dites effectivement, à fort juste titre, dans cette chanson. Toujours un regard pour tenter de se distancier un peu de la foi, de ces saletés, de ces bêtises et de ces horreurs. Donc il y a ceux qui arrivaient à le faire, ceux qui n'y arrivaient pas. Mais enfin, ça a une grande place dans l'état d'esprit de ces internés.
Oui, une grande force de caractère, en tout cas, de la part de ces gens. Ça nous permet justement de parler de la vie dans le camp. Parce que dans le camp, ben, là, c'est un exemple, mais il y en a bien d'autres, je pense que vous allez nous en citer. Il y a une véritable résistance, qui n'est pas une résistance de force, parce qu'ils ne sont pas en situation, ces gens qui sont internés, mais c'est quand même une résistance.
Oui, alors, cela nous a conduit, d'ailleurs, cette remarque que vous faites fort justement, ça nous a permis systématiquement d'élargir la notion de résistance. D'abord, il faut quelque part la déshéroïser. Bon, il y a des héros, mais là, résistance, et nous préférons dire les résistances, ça peut commencer à, je le dis souvent, un policier qui détourne le regard et qui laisse filer un gamin, c'est pas vraiment héroïque et ça sauve une vie. Bon, c'est une forme de résistance. Et vous faisiez allusion à d'autres formes de résistance tellement évidentes au camp des Milles. Bon, on parlait de l'ironie, on parlait de la distanciation, résistance en quelque sorte par le caractère et par la personnalité. Mais au camp des Milles, l'une des spécificités du camp, avec un autre camp en Europe qui est le camp de Térésine, c'est le nombre important d'artistes et d'intellectuels. Écrivains, musiciens, peintres, nombreux peintres, Max Ernst, Hans Bellmer, Leon Feuchtwanger, bon, des prix Nobel, l'inventeur de la cortisone. Donc on a vraiment là une population particulièrement cultivée, artiste, et qui met au service de la résistance, de la lutte contre la déshumanisation, qui met toutes ses qualités. Bon, alors à la fois, comment dirais-je, certains de ces artistes, par leur sensibilité particulière, craquent plus vite que d'autres. Ben, ça a été le cas, je l'évoquais tout à l'heure, de cet écrivain, mais d'autres encore. Et puis d'autres, au contraire, arrivent par leur art à, je n'ose pas dire sublimer, c'est presque indécent, mais en tout cas à décoller. C'est par hasard, si on avait là aussi une matrice du surréalisme, on dépasse le réel qui est insupportable. Bon, donc on laisse des peintures sur les murs, on écrit des poèmes, on écrit un livre pour Feuchtwanger et d'autres encore, des témoignages, etc. Bref, on crée pour résister, on résiste par l'art et par la création. On fait des cours en interne, c'est-à-dire que les prix Nobel de chimie ou de physique, bah, ils font des cours de chimie et de physique à d'autres intellectuels qui sont médecins ou qui sont, etc. Il y avait une trentaine de langues qui étaient parlées, 38 nationalités, donc ils s'apprenaient leur langue, enfin ceux qui voulaient, bien entendu, bon, ceux qui pouvaient aussi. On parle là de la période la moins dure, hein, parce que évidemment, quand, au fur et à mesure du temps et lorsque les enfants et les femmes sont arrivés et que la tension était extrême et qu'on sentait que les horreurs approchaient, et tout ça a un peu disparu. Mais dans la période où on pouvait encore le faire, des peintures murales, il y a une salle des peintures murales qu'on peut visiter au Camp des Milles, où on voit par exemple une grande, nous l'appelons la scène ou le repas des nations, parce que c'est effectivement c'est une grande table où on voit des visages d'un Asiatique, un Américain, un Esquimau, un Noir, etc. Bon, qui mangent à la même table, à un moment évidemment où premièrement ils mangeaient pas dans l'internet, c'était pas brillant, et deuxièmement où le racisme était partout pour séparer les gens. Bon, donc c'est un message parmi d'autres, il y en a beaucoup. Ça c'était un exemple. Vous avez tout à l'heure parlé de l'hymne des Milles, mais il y avait aussi, et c'est extraordinaire, une sorte de cabaret entre guillemets qu'ils ont appelé dit catacombes. Alors là aussi l'ironie, parce que dit catacombes, bah, c'est pas très enthousiasmant comme mot, mais c'était un cabaret. Alors vous direz, mais qu'est-ce que vous venez foutre? Toujours pareil, ces gens-là, le soir, plus ou moins en douce, parce qu'il y avait des périodes où les gardiens étaient fermés un peu les yeux, on leur faisait des dessins ou des peintures qu'ils pouvaient revendre, ça mettait un peu de l'huile dans les rouages, enfin ouais, toujours un petit peu des gars qui étaient humains aussi tout simplement, d'autres qui se faisaient acheter, enfin bref, il y avait de tout. Bon, bref, les internés se débrouillaient la nuit parfois pour se retrouver dans ce lieu qui était une espèce de très long four à tuiles, hein, pour ceux qui viendront, il est préservé, on peut y entrer, où, à la lumière de petites bougies, il récitait des poèmes, il s'inventait, alors, un exemple d'opéra détourné par l'humour, l'auberge du cheval presque blanc, bon, etc. Bon. Donc, on a vraiment là une matrice extraordinaire, et il souligne que pour entrer et sortir de ce lieu, il fallait enjamber une sorte de ruisseau de allez, j'ose le mot, de pisse et d'excréments qui coulaient de partout, parce qu'il y avait sept latrines pour plus de 2000 personnes, hein. On n'a pas donné les chiffres, mais enfin, en gros, il y a eu plus de 10 000 internés, il y a eu ensuite environ 2000 hommes, femmes et enfants juifs déportés à Auschwitz. Bon. Mais donc, il y a eu souvent en même temps dans cette ancienne Tuilerie, 3500 personnes. Bon, donc ça, malade, diarrhée, pas le droit de se lever théoriquement la nuit, etc., etc. Donc pour eux, c'était un acte quelque part symbolique d'enjamber ces saletés pour aller vers la culture, vers des poèmes, vers autre chose qui leur laissait une humanité. Ils restaient hommes par cela, et c'était important.
Oui, une entrée qui est décorée d'ailleurs.
Tout à fait.
Et je crois me souvenir, vous allez me dire si je me trompe, je crois me souvenir qu'il y a même la caisse.
C'est ça, il y a marqué casse, ils ont vraiment joué le jeu. Ils ont joué le jeu. Il y a une inscription en allemand qui dit le soir, c'est ici. Il y a la caisse, il y a des visages de la Comédia dell'arte à l'entrée, ce que vous disiez. L'un qui rit, l'autre qui pleure. Donc toujours cette dualité de la vie de humaine. Non, c'est fort.
Oui, donc on a. À côté de ça, j'ai aussi vu l'importance justement des relations avec l'extérieur pendant cette période, pendant la période qui était, on va dire, la période la plus souple, si je puis m'exprimer ainsi, des relations avec l'extérieur, avec des associations, etc., où c'était relativement facile. Après, c'est devenu beaucoup plus difficile, ces relations, et qui peut-être donnait un peu plus d'espoir à ces gens qui étaient enfermés à ce moment-là.
Oui, alors il y a eu pour faire court, deux types de relations. Il y a eu des relations avec le milieu millois des Milles, du village des Milles, tout simplement. Donc rarement, mais tout de même, une équipe de foot du camp qui allait se battre, enfin se battre, jouer avec ou contre une équipe des habitants des Milles, où ils échangeaient leurs joueurs parfois aussi, un ou deux violonistes réputés internés qui venaient appuyer un orchestre ou en tout cas un petit groupe de Millois. des moments où, dans des conditions pas toujours claires, des internés pouvaient sortir pour s'acheter ceci, ce qui d'ailleurs parfois, au début, créait des jalousies dans le village, parce que bon, s'ils viennent nous acheter ceci, c'est qu'ils ont de l'argent, comme par hasard le lien a été fait avec les préjugés contre les juifs, même si tous n'étaient pas juifs, évidemment. Bon, ça c'est une première catégorie au tout début, hein, de l'engrenage.
Oui, c'est ça.
Ouais, c'est ce que vous disiez.
Oui, oui,
bon, et puis il y avait autre chose que vous évoquiez, mais qui a continué quasiment jusqu'au bout, c'est l'intervention d'associations humanitaires à l'intérieur du camp. Bon, associations religieuses, hein, YMCA, l'OSE, l'Organisation de secours aux enfants, qui est une organisation juive, les Quakers, etc. Bon, donc là, la CIMAD, mon Dieu, j'ai oublié. Là, effectivement, c'était une planche de salut solide pour les internés. Bien sûr, ils n'ont pas pu tout éviter, loin de là. Leur action a été de plus en plus difficile. Mais c'était un point d'appui pour faire passer des messages. Et puis, à un moment décisif, juste avant les déportations, certaines de ces organisations... soit qu'elles aient eu vent, soit qu'elles se doutent, soit doutées que ça allait vers la mort, certaines de ces associations ont proposé aux parents de laisser leurs enfants. Et là, on touche au tragique, bien sûr, parce que mettez-vous à la place de ces parents déjà ayant faim, fatigués, anxieux, sachant pas de quoi l'avenir est fait, etc. À qui des associations qui ne pouvaient pas vous dire si vous les laissez, ils vont mourir, parce qu'ils en étaient pas sûrs, évidemment. Et puis, ils auraient probablement été interdits d'intervention s'ils disaient ce genre de choses. Bon, vous avez d'un côté une association qui vous dit, on vous conseille quand même d'abandonner, parce que juridiquement, il fallait signer un acte d'abandon de ces enfants en pleine guerre, ou au contraire, vous les gardez, évidemment, à vos risques de péril. Et les gens se sont partagés, et on le comprend, évidemment.
Oui, bien sûr.
Ceux qui ont gardé leur gosse en disant, on sait pas de quoi l'avenir sera fait, restons ensemble, au moins on vivra tout ensemble. Oui. Et puis ceux, et ceux qui ont abandonné, entre guillemets, leurs enfants, il y a des scènes, on a beaucoup de témoignages déchirants parce que ces enfants ont survécu. Ces enfants ont survécu. Beaucoup, d'ailleurs, réfugiés en Israël, parce qu'ils allaient devenir Israël. Là, c'était un refuge en cours de construction, hein, l'État d'Israël face aux persécutions. Donc, beaucoup en Israël. On a retrouvé, notamment, les enfants qui avaient été sauvés par Auguste Boyer, habitant d'Émile, qui a sauvé quelques gosses avec son épouse. Ces enfants rescapés sont devenus, en l'occurrence, grands-parents en Israël, mais d'une façon générale, grands-parents un peu partout, aux États-Unis, un peu en Allemagne, un peu ailleurs, bon, en Angleterre, un petit peu en France, mais encore une fois, ce sont des... on voit tous ces témoignages, hein, au camp d'Émile, il y a plus de 48 films qui sont présentés, et de témoignages notamment, et tous ces grands-pères et grands-mères, ben, ce sont d'anciens enfants qui ont été... sauvés grâce à l'abandon fait par leurs parents.
Je vous propose d'écouter le chant des marais, qui est donc un chant qui a été écrit en 1933 par les prisonniers politiques d'un camp de concentration à Borgemor en Basse-Saxe, et qui a finalement été adapté en français et repris donc par de nombreuses chorales.
Au milieu d'un grand désert, au terme de détresse.
Voilà, donc août 42, c'est le moment du drame et le moment donc le plus terrible de l'histoire de ce camp des Mille.
Oui, c'est l'acmé de cet engrenage. C'est au fond, on ne parlerait probablement pas de ce camp s'il n'y avait pas eu cette horreur finale, si il n'y avait pas Auschwitz au bout du chemin, et si ce camp n'avait pas été, comme je l'évoquais tout à l'heure, le premier maillon presque ordinaire, un lieu de travail ordinaire, qui conduit à l'extraordinaire, et l'extraordinaire d'Auschwitz. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, les Allemands dans la zone occupée, donc on fait pression sur le gouvernement de Vichy pour obtenir à l'arrivée 10 000 juifs de la zone libre, dans le cadre évidemment de leur action de solution dite finale, d'extermination du peuple juif. Vichy n'a quelque part s'est laissé faire et est allé au-delà des demandes des Allemands, notamment en proposant de déporter les enfants que les Allemands ne demandaient pas. Les enfants en dessous de 18 ans, donc à partir de l'âge de 2 ans. Bon, on a des téléx, y compris d'Anecker, qui dirigeait les services allemands de lutte contre les juifs en France, et qui interpelle Berlin avec force en disant à Berlin, ben, répondez, les Français veulent déporter les enfants, c'est oui ou non? Bon, et pourquoi les Allemands ont hésité, puisque à la fin, évidemment, tout le monde y est passé partout en Europe? Mais parce qu'ils s'étaient aperçus, les Allemands, plus encore que les Français, que les dirigeants français, s'étaient aperçus que déporter les enfants, ça risquait de choquer la population française. Qu'au fond, jusque-là, on était dans un grenage progressif, où l'ambiance de guerre, la xénophobie, l'antisémitisme qui existait, tout ça, quelque part faciliter l'internement, les persécutions, et puis on savait pas trop ce qui se passait, etc. Bon, enfin, tout le monde ne savait pas ce qui se passait. Mais alors, déporter des gosses alors qu'on prétend emmener les gens pour aller dans des camps de travail, déporter des vieillards, déporter des infirmes, des invalides, etc., mais des gosses en particulier, des enfants en particulier, les Allemands se sont dit, ça peut mal tourner, on a besoin de Vichy et de la légitimité, entre guillemets, que Vichy soit pas trop rejeté par les Français. Bon, ils ont fini par accepter. Dans la période d'hésitation, d'ailleurs, les enfants ont été gardés dans des camps. Les parents sont partis, les enfants ont été gardés dans des camps, en attendant le feu vert ou pas des Allemands. Ils ont, détail atroce, pour certains, été tués dans les wagons parce qu'au fond, ils n'étaient pas sur les listes autorisées par les Allemands, donc ils ne savaient pas comment faire. D'autres ont fini par être déportés par... avec des femmes juives qui ont présenté comme leur mère pour faire comme si c'était pour pas séparer les familles. Bon, des tas de saletés, d'horreurs, de saloperies, il n'y a pas d'autre mot, qui ont fait qu'en définitive, évidemment, les Allemands ont été pris. Alors, Vichy en a rajouté au nom de « c'est chez moi ». C'est-à-dire que la zone libre, moi, Vichy, je dirige la zone libre et je veux montrer que je reste le maître dans la zone libre. Mais rester le maître dans la zone libre, pour vous et moi, ça aurait dû conduire à un peu de résistance, comme ça a été le cas au Danemark et dans bien d'autres pays, en disant, bah, attendez, où vous remettez en cause tout ce, bah, y compris cette autonomie que nous avons, et qui vous arrange bien, en définitive, qu'on gère la zone libre, et donc du coup, non, moi je donne pas les enfants, et je donne pas tous les juifs que vous voulez, au contraire, mon autonomie, ma liberté, c'est fait pour freiner ce genre de saloperie. Bon, bah alors ça a été l'inverse. Pour montrer que je suis autonome, je vais au-delà. Et surtout, c'est moi qui rafle, avec la police française. Ça a été un peu d'ailleurs le raisonnement même dans la zone occupée. On met les policiers français, sans lesquels, d'ailleurs, les Allemands n'auraient pas réussi à ramasser tant de juifs. Bon, mais voilà cette espèce d'engrenage de bureaucratico-politico-idéologique terrible, terrible, qui conduit à des horreurs à l'arrivée, des horreurs absolues.
Bon. Et c'est là que sont intervenues finalement toutes ces associations dont on parlait déjà tout à l'heure.
Les associations.
Et certaines personnes également.
Voilà. Et
marquantes.
Oui, vous avez raison. Il est important, en plus de ces choses tragiques et en même temps, de dire qu'à tout moment, il y a eu des justes. Il y a eu bien sûr les personnes elles-mêmes qui se sont défendues, qui ont, pour celles qu'ils pouvaient ou qui ont compris ce qui se passait, qui ont essayé de s'échapper. Enfin, c'était pas facile, ils parlaient pas la langue, ils étaient vite repérables, il y avait de la xénophobie, etc., etc. Vraiment pas facile. Mais bon, il y en a qui l'ont fait, qui ont résisté. Et puis, il y avait ceux qui ont aidé. Les associations, vous l'avez dit. Et des justes parmi. Il y a eu 18 hommes et femmes, justes des nations qui ont travaillé pour les internés du camp des Milles. Bon. Et parmi lesquels, deux justes particulier, si je puis dire, parce qu'ils étaient vraiment sur le terrain tout le temps. J'évoquais le gardien Auguste Boyer, et il faut évoquer aussi le pasteur Henri Manin et son épouse Alice, qui ont non seulement agi, aidé, fait leur maximum pour sauver un maximum de personnes, mais qui ont aussi, enfin, le pasteur a écrit un témoignage qu'on trouve au camp des Milles qui s'appelle « Au fond de l'abîme », et avec une plume très sèche, très descriptive et d'autant plus percutante, décrit les horreurs. Les horreurs, ces pères et ces mères, dit-il, impuissants devant la souffrance de leurs enfants, ces petits enfants transportant dans le froid et la nuit des petits baluchons qui les dépassaient, ils avaient sommeil, etc. Enfin bon. On lui doit le principal témoignage sur ces horreurs.
Oui, c'est un témoignage très...
Voilà.
Très,
et pour nous, les justes... Alors, nous terminons la visite du camp du mémorial par un mur des actes justes. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a les personnes qui ont été reconnues comme justes par... c'est Yad Vashem, qui, au nom de l'État d'Israël, remet... C'est la plus haute médaille de l'État d'Israël, d'ailleurs, cette médaille des justes, après une grosse enquête. Mais pour nous, il y a tous ceux qu'on ne connaît pas. Qu'on n'a pas connu, qui ont fait des actes discrets mais efficaces, et nous préférons mettre en avant les actes justes parce que nous mettons aussi en avant les actes justes et pas seulement les justes parce que tout simplement des jeunes en particulier peuvent sentir que être juste c'est être saint, on se sent pas capable d'être un saint alors que faire un acte de courage, de générosité, c'est beaucoup plus facile. Donc on met ça en avant, et d'ailleurs on met en avant ces actes justes dans l'ensemble des génocides.
Alors on va parler de cet aspect-là, de la mémoire du devenir du camp après 1942. Je voulais vous faire écouter une chanson magnifique qui a été écrite par des élèves du collège Rosa Bonheur de Bruges dans l'académie de Bordeaux, qui ont visité le camp des Milles et qui ont écrit et interprété une chanson magnifique.
Mais là, je ne sais pas pourquoi, je ne suis qu'un artiste, un nom sur une liste. Tant que je peux créer, j'arrive à m'évader. Peindre est mon seul recours si je veux résister. Ils enferment ici des sujets ennemis, mais on n'enferme pas l'art et la poésie. Pour cela, ma crayon, des mots, une chanson. Si je pars sur ces murs, un jour ils tourneront. Au cœur de la Provence, une fabrique à tuiles, cette usine à souffrance, c'était le camp des Milles. Bafoué, interné, effacé à la chaîne, aux mille par milliers, victimes de la haine. Enfermé là, je ne sais pas pourquoi. Je viens d'avoir 13 ans, je ne comprends toujours pas. Je suis juif, et alors, est-ce un crime, est-ce un tort? Ce camp est un enfer, partout rôde la mort. J'ai peur de m'endormir, je ne veux pas mourir. Couché sur ma paillasse, je vois mon père souffrir. Un tuer vers l'espoir, évadé de ce camp. Mais vers où passe ce train, où montent mes parents? Au cœur de la Provence, une fabrique à tuiles, cette usine à souffrance, c'était le camp des Milles. Bafoué, interné, effacé à la chaîne, aux mille par milliers, victimes.
voilà, cette très belle chanson, Alain Chouraqui, à propos du camp des Mille.
Oui, très ému. Ah oui, voilà, très, très bouleversante pour nous, parce que quand on entend une chanson comme cela, de même que quand on voit, quand j'arrive au mémorial, qui est maintenant donc un lieu d'engagement, de travail pour moi, et qu'on voit toutes ces classes, tous ces jeunes, tous ces enfants, on en a parfois 600, 700 le même jour, 60 000 par an maintenant, etc., avec une augmentation de 30 à 40% par an, qu'on voit les regards s'allumer, qu'on voit ces gamins qui s'approprient, souvent ils arrivent, bon, on y reviendra peut-être tout à l'heure, évidemment, ils s'en fichent un peu, ou c'est juste la récré, etc. Bon. Mais on a l'impression d'avoir réussi, quoi. On a fait passer, pas seulement le souvenir, mais le ressenti de la bêtise, de la barbarie, de ce que l'homme a pu faire à l'homme. Et ça, c'est important pour armer les jeunes, ce qui est évidemment l'objectif.
Oui, visiblement, quand on entend cette chanson, on a compris que l'objectif avait été atteint avec cette classe de troisième. Mmh. Alors, si vous le voulez bien, on va voir un petit peu comment émerge, comment revient la mémoire de ce camp, et ensuite ce que vous avez fait de ce camp, de ce site, par rapport à son aspect, on va dire, pédagogique, et aux outils que vous mettez en œuvre pour réagir à la montée de l'autoritarisme et du racisme. Alors, comment cette mémoire va revenir dans les années 80, je crois?
C'est ça, exactement. Alors, je crois qu'il faut d'abord situer le contexte de la mémoire, enfin, le contexte et la place de la mémoire dans la conscience collective française en particulier. Bon. Jusque dans les années 80, on ne parlait quasiment pas des déportés, et notamment de la déportation des Juifs. Bon. Aujourd'hui, certains ont l'impression qu'on en parle trop. Il ne faut pas oublier, encore une fois, que pendant 40 ans, on n'en a quasiment pas parlé. On a pour des tas de raisons. D'abord, c'est jamais très facile de se pencher sur un passé douloureux où on a une responsabilité collective. Je précise, parce que j'ai peur de l'oublier, que quand je parle de responsabilité collective de nous Français, le but n'est pas de se culpabiliser. Le but, c'est de dire, nous aussi, comme tous les hommes, nous sommes capables, nous avons été capables du pire. Aussi du meilleur par la résistance, mais aussi du pire. Ce serait trop simple que ce ne soit que des Allemands et des nazis, et puis on enferme ça dans une boîte, et puis c'est du passé sur lequel on pleure, point final. Non. Chaque peuple, et chaque personne en lui-même, a ce ferment de haine, de violence, de rejet de l'autre, de domination, etc., etc. C'est important. Donc je ferme cette parenthèse, et je dis que pendant donc une quarantaine d'années, cette gêne à l'égard du passé a fait que, en gros, la France était résistante. Voilà. On a vu se multiplier partout les musées de la résistance. Il y a peu d'endroits où certains ont un peu disparu, mais il y avait des mini-musées ou des maxi-musées de la résistance partout. Bon. Et puis, on est passé de cette image, nous mieux que les autres, on a résisté, etc. On est passé on a parlé des déportés résistants, des résistants déportés. Donc, c'était la déportation, mais de ceux qui avait résisté. Et puis, début des années 80, recommence, réémerge l'antisémitisme violent, l'antisémitisme idéologique, à la fois par des attentats Copernic, rue des Rosiers, etc., mais aussi par la montée de l'extrême droite et de son idéologie qui n'a pas changé. En particulier les anciens déportés qui avaient essayé de parler mais qu'on n'avait pas beaucoup écouté, et puis ils n'avaient pas non plus très envie de parler eux-mêmes, hein, il y a les deux, ces déportés ont commencé à se dire il faut qu'on parle parce que ça recommence ou ça risque de recommencer. Bon, et parmi eux, on connaît bien le cas de Simone Veil, bien sûr, qui elle-même ne s'est mise à parler qu'à ce moment-là. Bon, je prends l'exemple de mon père, ancien résistant, non déporté, mais ancien résistant, qui n'était pas fanat de parler de ces choses-là. Il a lui-même fait un camp, mais un camp, j'allais dire, moins dur que d'autres en Algérie. Bon, mais à ce moment-là, il faut parler, il faut se forcer à parler, il faut forcer les gens à écouter, parce que ça recommence et ça peut recommencer contre les Juifs, et pas seulement. On voyait déjà aussi émerger le rejet des Arabes, etc., etc. Bon. Donc, dans les années 80, virage, on commence à s'intéresser à la déportation des Juifs, et c'est dans ce contexte précis, 1982, que le sous-préfet d'Aix-en-Provence alerte en disant « Attention, la salle des peintures du camp des Milles risque d'être détruite. Je n'y peux rien parce que c'est une propriété privée, une entreprise privée, mais je tiens à ce que vous, anciens résistants, communautés juives, etc., vous soyez au courant. » Et là, tout le monde tombe du 10e étage. Qu'est-ce que c'est que ce camp des Milles ? Personne n'en parlait. Alors qu'évidemment, les anciens habitants des Milles, beaucoup d'Aixois étaient au courant, mais dans l'esprit dont je parlais tout à l'heure de l'évitement, l'oubli, l'occultation, volontaire, involontaire, etc., personne n'en avait parlé. Et donc les interlocuteurs, qui la plupart n'étaient pas d'origine aixoise, etc., ont découvert en même temps le risque pour une partie importante du camp et le camp lui-même. Bon. Et là a commencé une longue marche de 30 ans. 1982, 2012, ouverture du site mémorial. Avec des obstacles très intéressants sur notre conscience collective et tout simplement sur le fonctionnement de l'esprit humain et collectif. Où là, alors là, de façon très pratique, on commençait à ne plus oser dire non, il faut pas se souvenir. Parce qu'effectivement, comme je le disais, les choses avaient commencé un peu à évoluer, donc on n'osait pas vraiment dire « il ne faut pas le faire ». Donc on trouvait des biais, mais on ne faisait pas quand même. Bon, donc on a été baladés avec des « oui » de certaines autorités. Nous, au début, on ne tenait pas du tout à créer une fondation, qui d'ailleurs, contrairement à ce qu'on peut croire, est d'intérêt public et évidemment à but non lucratif. Bon, parce que dès qu'on dit fondation, on pense qu'il y a des sous. Non, il y a des murs, en l'occurrence, c'est tout. Hein. C'est une richesse morale, mais ça ne fait pas non plus bouillir la marmite tous les jours pour accueillir tant de gens. Non, donc je disais, on ne tenait pas à cela. On souhaitait que l'État, la puissance publique, de même qu'il y a des musées très légitimes de la Lavande, des châteaux forts, etc., ben, que le seul camp intact soit pris en charge par les pouvoirs publics. C'était notre objectif pendant 20 ans, jusqu'au jour où on s'est aperçu, avec ce que je disais, qu'en fait, personne ne voulait se charger de cela. Et donc, les choses ont petit à petit mûri, on s'est accroché aux grilles de la Tuilerie, on a fait des campagnes de presse internationale, nationale, on a pris des contacts, etc., etc. Bon, la presse nous a formidablement aidés, formidablement. De façon mesurée, elle est souvent critiquée. Moi, je fais partie de ceux qui la critiquent souvent, évidemment. Mais là, ça a été remarquable en permanence, y compris des premières pages dans Le Monde, et bien sûr les journaux locaux et régionaux qui ont bien compris qu'il y avait un sujet là, il y avait quelque chose d'important. Bon, donc ça a été une bataille avec d'anciens résistants et déportés, non pas du camp des Milles, aucun n'était dans la région, mais des gens qui avaient vécu. Qui avait, dans mon père, j'ai fait allusion tout à l'heure, mais il faut que je cite le colonel Montguilan, disparu aujourd'hui lui aussi. Madame Toros-Marter, déportée à... Montguilan était déporté résistant à Mauthausen. Enfin, résistant déporté à Mauthausen. Madame Toros-Marter déportée à 16 ans dans les rafles de l'opéra pour Auschwitz aussi. Bon, ces gens et d'autres qui ne sont plus là, avec moi-même et quelques personnes de la génération suivante, nous sommes dit, on ne doit pas lâcher. On ne doit pas lâcher avec, dès le début, l'objectif pour que ça serve à aujourd'hui.
Voilà, c'est ça, c'est une des originalités du site mémorial. Cet aspect pédagogique de votre...
Alors, c'était depuis le début dans l'esprit de ces anciens.
Comment ça se présente ?
D'un mot, avant de répondre à cette question importante, ils avaient connu les diables ordinaires et ils les voyaient renaître. Sans qu'eux-mêmes, ces diables-là, sachent que c'est qu'ils étaient des diables. Les petits diables ordinaires de l'intolérance, du racisme, du rejet de l'autre, ils les connaissaient, ils savaient que c'était dans l'homme. Et donc, ils savaient que ça pouvait revenir. Et pour eux, l'essentiel, ça a été, ce à quoi vous faites allusion, l'action pédagogique et citoyenne que le camp des Milles, enfin, que le mémorial devait faire. Autrement dit, pas seulement un lieu d'histoire tourné vers le passé, pas seulement un mémorial où on présente, comme dans beaucoup d'autres endroits, l'histoire, c'est suffisamment compliqué, et les lieux eux-mêmes, mais un lieu où on essaie de décortiquer les mécanismes humains, individuels, collectifs et institutionnels, qui ont pu conduire au pire, et aussi les mécanismes qui permettent de résister. Donc ça a été la volonté politique, idéologique, je dirais morale, au-dessus de tout, et citoyenne, de ces initiateurs. Et on a tenu bon pour avoir les moyens de faire cela, parce qu'évidemment, dans les différentes étapes où on nous proposait d'en faire un musée du tracteur agricole, d'en faire un musée de la tuile et de l'argile, j'en passe, et des meilleurs, bon, et puis ensuite quand même d'accepter un petit mémorial, cette partie-là, on l'a zappé chaque fois. Et bien, on a dit non, malgré les années qui passaient, on a dit non tant qu'on n'avait pas les moyens de faire aussi ce lieu d'éducation à la citoyenneté. Et ça s'est traduit par le fait que, sur les lieux mêmes, la dernière partie dite réflexive et citoyenne, est unique au monde. Elle est unique au monde parce que elle présente ses mécanismes sous différentes formes. Un film, plusieurs qui montrent les étapes, un schéma, des explications. Ça a donné, vous l'avez évoqué vous-même tout à l'heure, un ouvrage, un grand schéma que j'ai d'ailleurs sous les yeux avec quelques mots-clés qui montrent les différentes étapes qui peuvent mener au pire à partir du racisme ordinaire et qui montrent malheureusement qu'on est bien engagé dans l'engrenage. Bref, nous avons travaillé tout ce qui pouvait faciliter l'appropriation par le visiteur des clés de compréhension que cette histoire apportait.
Oui, c'est la fin du parcours. Hein,
C'est la fin du parcours.
C'est la dernière ou les deux dernières.
C'est les deux niveaux, effectivement. Voilà. Pour l'anecdote et pour vous montrer où nous en étions, les 400 mètres carrés concernés, j'ai dû quasiment jusqu'à la fin les mettre en gris dans les plans sous forme de locaux techniques. Parce que il fallait pas faire apparaître qu'on allait aussi faire un lieu d'intelligence. Mmh. Bon, mémoire, c'était déjà difficile à obtenir. Bon, petit à petit, les locaux techniques ont pris de la place et ne sont plus restés dans les locaux techniques. Bon, et tout le monde s'en réjouit ou fait semblant de s'en réjouir aujourd'hui. Bon, donc, pour en revenir à l'essentiel. Pour nous, l'important, c'était d'apporter de la façon la plus pédagogique possible les résultats des sciences sociales en général, des sciences humaines et pas seulement de l'histoire, c'est-à-dire la sociologie, la psychosociologie, la philosophie, l'économie, la science politique, le droit. Qu'est-ce qu'ils nous disent à partir de cette histoire? Sur, par exemple, l'importance de l'effet de groupe, sur, par exemple, l'importance de la soumission aveugle à l'autorité, sur, par exemple, l'importance de la passivité, sur, encore une fois, le séquençage de ce qui peut mener au pire. Et méthodologiquement, vous avez dit, je suis chercheur, donc en bonne méthode, il fallait non seulement tirer les leçons pluridisciplinaires de cette histoire, mais se poser la question de savoir si cette histoire était de portée universelle ou si c'était au fond des leçons limitées à un cas, à un moment donné, en Europe, avec un Hitler avec petite moustache, etc.
Bien. Oui, c'est là qu'intervient un peu la convergence.
Exactement. Exactement. Voilà. Exactement. Là, vous avez cité le mot, et il est dans l'intitulé de la chaire de l'UNESCO, convergence des mémoires. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, d'abord, ça veut dire pas de concurrence des mémoires. Hein, c'est indécent de dire moi plus, faut pas oublier si et moi, etc. Bon, indécent. Il faut oublier personne, bien entendu, mais on va pas peser les souffrances. Non, mais donc c'est convergence, c'est pas concurrence. Mais c'est surtout faire converger les leçons des grands génocides, dont bien sûr et à la base la Shoah, puisque c'est un lieu Shoah, bon, l'Holocauste. Bon, à partir de là, est-ce que les leçons de l'Holocauste, de la Shoah, sont des leçons universelles ou limitées à une histoire particulière européenne? Et c'est là que quand on rapproche les mécanismes qui ont été à l'œuvre, j'en ai cité quelques-uns, dans la Shoah, qu'on les rapproche de mécanismes qui ont fonctionné contre les Arméniens, contre les Tutsis au Rwanda, contre les Tziganes, on s'aperçoit de convergence. On fait converger ces leçons de ces histoires, de ces mémoires, on les fait converger sur les mécanismes humains communs qui ont conduit au pire et qui donc peuvent conduire au pire. Car si ces mécanismes ont fonctionné dans plusieurs périodes et dans plusieurs continents, ça veut dire que ce sont des mécanismes dont la récurrence, peut-être la permanence, est forte. Ça veut dire que sans même parler d'actualité, nous pouvons dire que ce sont des mécanismes à l'œuvre au présent, ou tout au moins dont le risque existe de façon constante. À partir de là, eh bien, nous proposons une grille de lecture du présent, à partir de ces histoires. Et cette grille de lecture, elle se décline de mille manières, dans les visites, à travers évidemment les éléments de langage que nous faisons passer, dans les ateliers, il n'y a pas, quasiment pas de jeunes qui fassent la visite des scolaires sans faire un atelier qu'ils choisissent d'ailleurs, qui permet d'approfondir les choses, dans des supports pédagogiques comme l'ouvrage, on en a parlé, mais nous l'avons décliné de façon plus simple dans un petit manuel de survie démocratique, que nous avons nous-mêmes résumé dans un schéma que je viens de vous présenter, que nous avons aussi prolongé dans un indice d'analyse et d'alerte républicaine et démocratique, qui est dans un indice scientifique tout à fait robuste que nous avons créé l'an dernier et qui permet de voir que le risque pour la démocratie a été multiplié par 4 en gros entre 1990 et l'année dernière. Nous n'avons pas encore les derniers chiffres. Bon, il y a donc toute une série d'outils, un DVD qui est à disposition aussi, tous ces outils sont à disposition à la fois sur notre site internet, sur nos sites internet, et bien sûr aussi à la Fondation du Camp d'Émile ou sur demande. Certains sont tout à fait d'accès libre sur notre site ou peuvent être demandés gracieusement, parce que encore une fois notre idée, c'est vraiment de contribuer à la lecture du présent à la lumière des leçons du passé, afin de prévenir les étapes suivantes de l'engrenage. C'est vraiment l'essentiel. Et je citais les scolaires, bien entendu, évidemment, les groupes d'adultes, etc. Mais de plus en plus, des jeunes de quartiers qui sont éloignés culturellement de tout cela et qui viennent en nombre, vraiment très nombreux, à travers leurs établissements scolaires, mais aussi à travers des centres sociaux, des partenariats multiples que nous avons dans le cadre de la politique de la ville, y compris au niveau national. Un partenariat qui va être signé d'un moment à l'autre avec le ministère des Sports, lorsque Laurent Flessel est venu, nous avons convenu ça pour la formation des cadres du sport en France et dans les différentes fédérations sportives, des actions auprès des forces de l'ordre, notamment des policiers municipaux, auprès des fonctionnaires. Nous avons un accord national avec le CNFPT, qui est le centre de formation pour la fonction publique territoriale et qui prend en charge donc beaucoup de ces éléments, des accords avec des villes pour la formation de certains de leur personnel. Donc c'est maintenant tous azimuts, nous avons aussi, et ça je m'adresse aux auditeurs pour qu'ils l'entendent bien, s'ils appartiennent à des associations, à des structures, en plus de venir visiter ou de faire leur réunion sur place, nous avons un label, nous remettons au nom de la DILCRA, délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, et au nom du défenseur des droits, nous remettons dans le cadre de la chaire UNESCO un label à la suite d'une formation d'un jour, deux jours, trois jours, qui permet de former des référents qui eux-mêmes créent des actions que nous accompagnons pendant un an dans une association, une structure, un centre social, une gendarmerie, etc. etc. Vous voyez donc une ouverture des dispositifs qui est assez considérable.
Oui, quand je vous entends dire tout ça, je me dis qu'il y a du boulot quand même.
Oui, il y a du boulot. Oui.
Je voudrais,
de fait et à faire.
Oui, c'est ça. Je voudrais terminer vite, rapidement. L'accord historique entre Auschwitz et le camp d'Émile en une minute.
En une minute, c'est effectivement la première fois qu'Auschwitz accepte de donner un certain nombre d'items, d'objets, etc. Et surtout, ça permet à Auschwitz de s'approprier cette dimension réflexive que nous sommes les seuls à porter au monde. Mais nous avons le même type de partenariat avec Washington, avec Kigali, avec Sarajevo. Donc ça nous permettra de diffuser notre approche très, très, très largement.
Merci beaucoup Alain Chouraqui. Je rappelle que vous êtes président fondateur du site mémorial du Camp des Milles. Et nous vous souhaitons de continuer votre travail et puis peut-être une autre visite. Au revoir.
En tout cas, ce sera avec plaisir. Merci, au revoir.